France Inter.
Radio, l'information numérique,
téléspectateurs, presse indépendante.
Le 6-9 du week-end.
Bonjour Alexandra Koun.
Bonjour Patricia, bonjour à tous.
Regard sur les médias, on revient d'abord sur le débat de l'entre-deux-tours qui a eu lieu mercredi soir.
Mais on ne va pas parler politique, c'est interdit par le CSA ce week-end. Non, on va revenir sur la forme et sur l'audience. TF1 et France 2 organisaient, mais au total 6 chaînes ont diffusé pour une audience globale de 16,5 millions de téléspectateurs. C'est bien simple, jamais tel débat n'a réuni si peu de monde. Sur la forme, l'innovation cette année, c'était l'usage de plans de coupe, voir les réactions de l'un lorsque l'autre parlait ou aboyait, ce qui a été pas mal le cas, devant deux journalistes, Nathalie Saint-Cricq pour France 2 et Christophe Jacubizine pour TF1, dépassés, écrasés par un tel affrontement. Leur prestation à eux a été beaucoup critiquée, inutile d'en rajouter. J'ai tout de même demandé à Christophe Jacubizine comment il avait vécu cette soirée.
Je ne me faisais aucune illusion sur la nature du rôle et l'enjeu journalistique, c'était pas l'objet. D'ailleurs, on a posé beaucoup plus de questions qu'en 2007 et 2012, donc on est très contents. Moi, j'ai pas eu l'impression du tout de me faire déborder, peut-être aussi parce qu'on vivait aussi un moment d'histoire et que la confrontation entre les deux était quand même d'une intensité inédite pour ce type d'exercice. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est effectivement par moment, je pense que quand on est au milieu de gens qui parlent, on entend les deux conversations. Quand vous êtes à la radio ou à la télévision, c'est insupportable des gens qui se parlent dessus. Peut-être que c'est là où on aurait dû effectivement être plus ferme comme agent de circulation ou comme maintien de l'ordre.
Quant à Nathalie Saint-Cricq, elle a confié aux Parisiens, avec l'humour qui la caractérise, l'idée de quitter le plateau en leur disant qu'on reviendrait après le match de football m'a traversé l'esprit. Et puis, pour la petite histoire, sachez que la table de ce débat a été offerte par TF1 et France 2 à l'Élysée, qui l'a versée au Mobilier National.
Grosse opération de communication cette semaine pour Canal+.
Les mails sont tombés en rafale dans les boîtes des journalistes spécialisés. Canal+ a signé un contrat d'exclusivité pour au moins 10 séries avec la chaîne américaine Showtime et l'a largement fait savoir. Après HBO en exclusivité sur OCS, Showtime c'est l'autre grande chaîne de séries haut de gamme. Belle prise donc pour Canal+, qui dans sa course pour endiguer l'hémorragie de ses abonnés, en avait grandement besoin, comme l'explique Emmanuel Torregano, directeur du site Electron Libre.
Il faut se rendre compte que depuis la prise en main de Canal+ par Bolloré à travers Vivendi, la boîte a essentiellement fait des erreurs stratégiques. Elle a laissé partir la première ligue, qui a été achetée par SFR 300 millions d'euros, ce qui était très cher, peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de s'aligner. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes une chaîne premium, vous ne pouvez pas perdre ce genre de contenu. Et Showtime, qui est un catalogue et en effet un producteur de séries plus qu'intéressant, hein, c'est des séries qui fait vraiment l'histoire du genre avec Dexter, Californication, mais qui aujourd'hui a aussi une série aussi intéressante que Homeland ou évidemment le prochain Twin Peaks de David Lynch que tout le monde attend, en tout cas les fans. C'est un signal envoyé à mon avis à tout le marché pour dire voilà, on est de retour dans le jeu. Il faudra évidemment confirmer, mais c'est un signe quand même très intéressant.
Et vous l'avez entendu, la bizarre et néanmoins sublime série Twin Peaks de David Lynch est de retour, 25 ans après la fin de la deuxième saison. Diffusion sur Canal+, dès le 22 mai.
Et l'on termine avec un anniversaire.
Première bougie pour la revue indépendante 75, mensuelle qui s'adresse aux curieux de Paris. Sa petite équipe s'est lancée dans l'aventure sans trop savoir si ça allait prendre. Un an plus tard, 10 000 ventes en kiosque par mois, 2 000 abonnés, et pas qu'à Paris, son rédacteur en chef, David Even.
On a énormément d'abonnés qui sont justement de région, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui, arrivés à un certain âge, 40, 50 ans, décident de quitter la capitale, mais qui, avec 75, ça leur permet de garder un lien avec Paris. Et comme on n'est pas un magazine de bon plan ou d'actu chaude, la plus grosse difficulté, c'est le défi de la notoriété. C'est justement de se faire connaître dans une ville monde comme Paris, où il y a énormément de choses, où les gens sont extrêmement sollicités. C'est pas facile, ça nécessite un peu de temps. Il faut apprivoiser d'une certaine manière le lectorat, que les gens nous achètent une, deux, trois fois avant de s'abonner. Et notre grande satisfaction, c'est que justement les gens s'abonnent.
Au programme de 75 ce mois-ci, 12 balades insolites dans la capitale, une rétro sur l'histoire de la célèbre maison Tati, ou encore une visite de l'atelier du photographe de mode Jean Larivière. 75 est en vente partout au prix de 4,90 €.
Merci Alexandra Akoun.